Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Musique. Musicopolis. Pianopolis, chapitre 2, facteur de piano et pianiste, un jeu à quatre mains. En mai et juin 1834, a lieu à Paris la 8e exposition des produits de l'industrie française. Installée place de la Concorde, elle reçoit 2447 exposants. Parmi eux, bien sûr, on trouve de nombreux fabricants d'instruments de musique. Dans le journal des débats, le chroniqueur écrit « Au clavecin a succédé le piano ». Et il est inutile de dire qu'aujourd'hui, c'est l'instrument dont on se sert dans les plus grands théâtres, comme chez les plus humbles particuliers. L'usage du piano est donc devenu général. La facture de ces instruments est aujourd'hui en France une branche fort importante de notre industrie. Dans la Revue de Paris, Jules Janin, quant à lui, s'exclame « Que de pianos, mon Dieu ! Tous parfaits, tous perfectionnés, tous plus harmonieux les uns que les autres. 250 pianos de différents maîtres et de différents noms. Sauf qui peut !» Si les facteurs de piano apportent sans cesse des perfectionnements à leurs instruments, c'est évidemment qu'ils travaillent en collaboration très étroite avec les pianistes et les compositeurs. Et en particulier avec cette catégorie de musiciens tout à fait singulière, représentée par les pianistes-compositeurs. Depuis longtemps, les Mozart, Clementi, Dussek, Field, Beethoven ont été en contact permanent avec les facteurs, à qui ils ont demandé des améliorations, aussi bien sur le plan de l'ergonomie, de tout ce qui touche à la technique, au toucher, aux pédales, aux dimensions, que sur le plan du son, de l'égalité, de la puissance, du caractère et de la personnalité de chaque piano. Et réciproquement, chaque facteur essaye de s'attacher à un pianiste-compositeur qui va pouvoir être sa vitrine sonore et représenter ses modèles aux oreilles du monde. En décembre 1823, arrive de Vienne, en passant par Munich, Augsbourg, Stuttgart et Strasbourg, la famille Liszt, le père, la mère et leur jeune fils Franz, âgé de 12 ans tout juste. Il vient de travailler pendant un peu plus d'un an avec Czerny pour le piano et Salieri pour la composition. Les diligences venant d'Allemagne à Paris arrivent alors dans la cour des messageries rue Notre-Dame-des-Victoires, pas très loin des grands boulevards, et au coin de la rue du Mail, où se tient le siège de l'entreprise Erard. Le jeune Franz Liszt, ou François Liszt, comme on l'appelle chez nous, entre très vite en relation avec la maison Erard, en la personne de son fondateur, Sébastien, ravi de ce jeune pianiste qui se révèle bientôt prodigieux. Juin 1824, Erard emmène le petit Liszt avec lui à Londres, où il a un magasin et une usine. Après avoir joué lors d'un dîner de la Société royale des musiciens de Londres, Franz Liszt se fait entendre dans les Argyle Rooms. Il joue sur le nouveau modèle de grand pianoforte de 7 octaves de Sébastien Erard. Les musiciens présents, Clementi, Kramer, Ries, Kalkbrenner et bien d'autres, n'ont pas de mots assez élogieux pour célébrer le jeune musicien. C'est un succès aussi bien pour Liszt que pour Erard. Le pianiste est pour le facteur non seulement un faire-valoir, mais même un argument de vente. Désormais, les noms de Liszt et d'Erard vont être liés pour l'histoire. Le journal des débats écrit en 1824 « Le jeune Liszt a fait entendre à son concert un nouveau piano de l'invention de messieurs Erard. Cet instrument réunit les avantages des pianos à échappement et sans échappement. La touche parle dans toutes les positions où elle se trouve et il n'est point nécessaire de la laisser remonter pour obtenir de nouveaux sons. » Cette facilité, cette promptitude sont du plus grand prix pour la perfection du trille et d'une infinité de passages qui exigent une exécution délicate et légère. Cette découverte est importante pour le piano. C'est un problème que le talent de M. Sébastien Erard vient de résoudre et dont les pianistes sauront apprécier les conséquences et les avantages. Thank you. Les facteurs de piano inventent sans cesse de nouvelles améliorations. Sébastien Erard, qui fait des allers-retours fréquents avec Londres, où il a installé une usine et où les facteurs anglais sont extrêmement actifs et inventifs eux aussi, met au point le double échappement en 1821. Une caractéristique qui permet la répétition rapide des notes, bientôt indispensable pour la nouvelle virtuosité qui est en train de naître. Après la mort de Sébastien en 1831, son travail est poursuivi par son neveu Pierre. On note que ces pianos ont une puissance exceptionnelle. Par exemple, pour l'inauguration d'une salle de 3500 places à Birmingham en 1834, la revue Le Pianiste note que Ignace Moscheles a obtenu un succès d'enthousiasme. Tout le fini de son jeu, nous dit-on, a pu être apprécié dans cet immense local comme dans un salon ordinaire. Il est vrai qu'on avait choisi pour cette occasion un des nouveaux pianos de Pierre Erard. C'est une qualité qui n'échappe pas à Liszt, qui lui aussi est à la recherche de la puissance. A été associé à Erard dès son arrivée à Paris, Chopin, lui, va jouer de préférence les pianos de Pleyel. Sébastien Erard avait commencé à fabriquer des pianos sous l'Ancien Régime et en avait vendu à Marie-Antoinette. Ignace Pleyel, lui, d'origine autrichienne et installé en France dès avant la Révolution, ne fonde sa compagnie qu'en 1807. Il a d'abord fait une carrière de compositeur, puis d'éditeur de musique. Élève de Haydn, il s'est rendu célèbre par ses nombreuses symphonies, jouées à la même époque que celles de son maître. Comme éditeur, il a lancé une collection de partitions de poche. Comme facteur de piano, il va s'associer en 1829 au compositeur Frédéric Kalkbrenner. C'est par l'entremise de Kalkbrenner que le jeune Frédéric Chopin entre en contact avec la maison Pleyel. Non seulement il va apprécier leur piano, mais il va également nouer une amitié sincère avec le fils Camille, associé de son père et qui reprendra bientôt l'affaire à son compte. C'est sur un piano Pleyel, dans les salons Pleyel, que Chopin fera ses débuts en février 1832 à Paris, quelques mois seulement après son arrivée. Thank you. ses amis, écrit que lors de son concert de début en France en février 1832, Chopin a surpassé tous les pianistes et que tout Paris est abasourdi. Fétis, le musicologue, déclare que son jeu est élégant, facile, gracieux, a du brillant et de la netteté. Alors que la maison Erard s'est spécialisée dans le double échappement, inventé en 1821, la maison Pleyel va se tourner pour son développement vers les pianos droits. Jusque-là, les deux formes principales des pianos, avec les cordes à l'horizontale, étaient d'une part le grand piano à queue, agrandissement de la forme du clavecin, et d'autre part le piano dit carré, en fait rectangulaire, qui venait plutôt des clavicordes. Mais plus l'instrument se démocratisait et gagnait les couches les moins aisées de la bourgeoisie, aux appartements moins spacieux, plus il était difficile de lui faire une place. En installant les cordes à la verticale dans la caisse du piano, on pouvait gagner une surface précieuse. Les caractéristiques des pianos Pleyel sont la légèreté du toucher et un timbre qui est doux et velouté dans le médium, cristallin dans l'aigu. Pour Chopin, il représente le non plus ultra. Son élève Emilie von Gretsch raconte qu'elle a fait l'expérience des plus fines nuances sur le beau piano de Chopin au toucher si proche des instruments viennois. Il le nomme lui-même, écrit-elle, un traître perfide. Elle ajoute « Ce qui sortait parfaitement sur mon solide et robuste Erard devenait brusque et laid sur le piano de Chopin. Il trouvait dangereux de se servir longtemps d'un instrument au beau son tout fait, comme c'est le cas des Erard. Il disait que ces instruments abîment le toucher. Qu'on tape, qu'on frappe dessus, c'est égal. Le son est toujours beau et l'oreille ne demande pas autre chose parce qu'elle est sous le son plein et sonore. » Thank you. En 1834, la revue Le Pianiste résume ainsi les affinités entre piano et pianiste. Vous donnerez donc un piano d'Erard à Liszt, à Herz, à Bertini, à Schunke. Mais vous donnerez un piano de Pleyel à Kalkbrenner, à Chopin, à Hiller. Il faut un piano de Pleyel pour chanter une romance de Field, caresser une mazourque de Chopin, soupirer une nocturne de Kessler. Il faut un piano d'Erard pour le grand concert. Le son brillant de ce facteur porte, non pas plus loin, mais d'une façon plus nette, plus incisive, plus distincte que le son moelleux d'un Pleyel qui s'arrondit et perd un peu de son intensité dans les angles d'une grande salle. Fantaisie sur des airs polonais en La majeur opus 13 de Frédéric Chopin. Pierre Goy sur un piano Pleyel 1839 avec Stefano Barneschi et Liana Mosca au violon, Ernest Broscher à l'alto, Paolo Beschi au violoncelle. La réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Hortense Leblouc pour les recherches, Clément Diaz pour le site, Philippe Petit pour la réalisation et Cédric Châtelus pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.